Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Hospitality, le podcast qui creuse avec vous les visions des différents acteurs qui font bouger le secteur de l'hôtellerie-restauration. Avec pour vocation l'inspiration, je vous invite, moi, votre hôte Mathilde, à suivre mes échanges spontanés avec différentes personnalités. Qu'ils soient entrepreneurs, restaurateurs, hôteliers ou issus de cette industrie, ils ont tous en commun un réel esprit de l'hospitality qu'ils me partagent ici sur ce podcast dédié. Si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser quelques étoiles sur iTunes. C'est de cette manière que je peux continuer à développer cette plateforme pour vous. Aujourd'hui, je rencontre Nathalie Greenbaum, la cofondatrice de la fameuse collection de Suites de Charme, Mi Hôtel à Lyon. Depuis 2013, son associé et elle ont donné naissance à un concept hôtelier au potentiel énorme qui prend tout son sens d'après moi dans cette période spéciale que nous vivons, où les comportements des voyageurs se réinventent justement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse rejoindre mon bel échange avec Nathalie et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nathalie.
Bonjour Mathilde.
Bienvenue sur le podcast Esprit Hospitality. Je suis tout à fait ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un tout nouvel épisode avec vous Nathalie qui êtes la cofondatrice de Mi Hôtel, une start-up lyonnaise dans le domaine de l'hôtellerie. Vous êtes responsable aujourd'hui d'une quarantaine de suites connecté et haut de gamme, comme dirait-on dans le concept et le jargon Mi Hôtel, à Lyon. Alors Nathalie, j'aimerais tout d'abord commencer avec votre parcours et aimerais savoir d'où vous vient cet intérêt personnel pour le monde de l'hôtellerie finalement.
C'est assez étrange, mais j'ai un parcours qui est assez courant. Au départ, j'ai fait une école de commerce et j'ai eu la chance de partir à l'étranger pendant longtemps. Et puis en fait, c'est pas tellement le monde de l'hôtellerie qui est, enfin, oui et non, j'en parlerai avec une anecdote, comme ça c'est plus clair pour les gens, mais j'ai surtout un goût de l'innovation et de l'entrepreneuriat, puisque dès ma sortie d'école, je devais faire un stage, et en fait, finalement, j'ai monté ma propre entreprise avec mon frère, dans un secteur innovant de l'informatique, dans le service informatique, puisqu'on louait des ordinateurs. À l'époque, vous ne l'avez pas connu, ça, Mathilde, 1 franc la minute et 50 centimes l'impression dans le quartier latin, dans le 5e, en face de la fac de Jussieu à Paris. Et on a monté un service donc, qui a très, très bien fonctionné. Donc, j'ai plutôt un profil d'entrepreneuse, en fait.
D'accord, dès votre plus jeune âge.
Voilà, donc j'ai très tôt commencé. On était avec mon frère, je devais imprimer mon CV, parce qu'il n'y avait pas d'imprimante chez les gens à l'époque. Hein. C'était très cher. Je cherchais un endroit pour pouvoir imprimer mon CV, le corriger et l'imprimer immédiatement. Alors, en fait, il fallait que je laisse ma disquette. Ça aussi, c'est quelque chose que vous n'avez pas connu non plus. J'ai dû laisser ma disquette à quelqu'un pour qu'il fasse l'impression. Puis quand je suis revenue, c'était tout tordu, pas comme je voulais. Donc, il a fallu que je recommence. Et là, après, j'ai dit à mon frère, je dis, mais c'est quand même pas possible. Je reviens des États-Unis et il n'y a pas un endroit à Paris en 1990 où on peut imprimer devant, être devant un ordinateur en libre service, imprimer son CV, le corriger, etc. Et il me dit, mais c'est génial ton idée, mais non, ça n'existe pas à Paris, je te le confirme. Et je lui dis, ah bon, mais c'est pas possible, aux États-Unis, moi j'ai fait ça. Et il m'a dit, mais c'est génial, et si on faisait ça, lui il sortait aussi de ses études. Et j'ai dit, allez, feu. Donc on est allé en parler avec mon père, qui était aussi plutôt un autodidacte lui, mais donc entrepreneur. Et il a trouvé l'idée géniale et il nous a évidemment
aidé à monter tout ça.
Et voilà. Donc voilà le parcours. Le parcours, c'est ça. C'est un parcours d'entrepreneuse après une école de commerce et ensuite partir à me retrouver à Lyon pour des raisons personnelles et là attaquer une carrière dans une boîte américaine extrêmement intéressante qui m'a appris beaucoup de choses où je me retrouve responsable marketing, prêt à un MBA parce que je retourne vivre aux États-Unis. Bon, ouais, c'est un long parcours pendant 11 ans, mais je suis responsable marketing Europe et c'est une boîte où on est en actionnariat salarial, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous actionnaire de l'entreprise. Il y a très peu d'entreprises comme ça dans le monde, il y en a peut-être 1000, et c'est des entreprises où tout le monde est très impliqué et où donc on va vivre le salariat comme si on était son propre entrepreneur. Donc je suis toujours dans ce profil-là.
D'accord, vous avez toujours eu ce profil d'entrepreneuse et vivre avec l'innovation autour de vous.
Tout à fait. Et donc bon an mal an, je décide de quitter et l'entreprise, et donc comme on a des actions, ben on part avec de l'argent, hein, même en plus de se séparer d'un long moment avec cette entreprise. C'est toujours très intéressant de faire ça. Et puis, c'est très motivant et très dynamisant comme façon de fonctionner. D'accord. Ça fait partie des entreprises les plus dynamiques dans le monde, souvent d'ailleurs, ces entreprises-là. Ensuite, donc je me retrouve à faire un. Je leur avais demandé de me payer une transformation de parcours.
Professionnelle. Hein, en fait.
Mmh. Voilà.
Une remise à niveau, et puis pour savoir ce pourquoi vous étiez faite à ce moment-là.
Ouais, exactement. Et donc, là, je me retrouve donc, dans un cabinet qui est spécialisé pour faire ça, dont je tairai le nom, qui est très efficace. Et tous les voyants arrivent, tous les voyants avec le consultant, c'est que, en fait, et tous les tests que je fais, c'est que j'ai un profil d'entrepreneuse et que, en fait, il serait bien que je me remette à créer à nouveau. Et que, d'ailleurs, mon patron américain, qui m'aimait beaucoup dans ma boîte américaine, me disait tout le temps, tu n'es pas manageable, tu dois être ta propre patronne.
C'était... Et vous aussi le ressentiez, j'imagine.
Oui, parfois c'était étouffant. Et donc, me voilà dans des cours aussi, dans des conférences avec du monde pendant cette période de transition salariale, professionnelle. Et puis, je rencontre des gens. Donc, le consultant me dit qu'il faut créer, donc il faut rechercher des idées. Et puis, je rencontre des gens qui, à côté de leur activité, enseignaient. Et il y en a un qui me dit, mais tu as un CV, un parcours très riche, tu devrais, notamment avec une spécialité marketing et digital, tu devrais donner des cours. Donc, me voilà partie en freelance, aller donner des cours dans les facs, les écoles de commerce sur Lyon. Et bon an, mal an, il y en a une qui me dit, bah, tu ne vas plus partir et on va te garder parce que les étudiants t'aiment beaucoup et tu vas reprendre les masters à l'IDRAC. Voilà, je me retrouve à l'IDRAC, à Lyon, et je me retrouve avec 600 étudiants, 200 profs, 4 superbes assistantes pédagogiques. Et voilà, nous voilà partis dans une aventure pour quelques années. Et parallèlement à ça, et c'est là que c'est intéressant, en parallèle à ça, j'ai monté une petite boîte sur Internet où on métallisait des objets avec une amie qui est hollandaise, et c'était le concept, au lieu de faire des timbales en argent pour les baptêmes, les gens faisaient métalliser les petites chaussures des enfants, les tétines, etc. Donc, nous voilà partis dans cette aventure. Ça m'a beaucoup permis de passer beaucoup de temps sur Internet en B2C et de référencer un site. Bon, ça, c'était une parenthèse assez courte. On a vite arrêté. C'était pas quelque chose qui a été amené à nous faire gagner de l'argent. Et donc, me voilà à l'IDRAC à plein temps, responsable pédagogique. Et parallèlement à ça, avec mon amie Stéphanie, puisque mon associée actuelle est une amie de plus de 20 ans, nous partions en vacances régulièrement et nous voilà. Moi, j'avais donc beaucoup, beaucoup voyagé et elle voyageait encore en France en tant que businesswoman, quoi. Chacune dans notre parcours, elle plutôt en finance, en gestion de patrimoine, etc. Et moi plutôt en marketing, gestion d'équipe, etc. Nous voilà donc en vacances et à elle de me dire non, mais c'est plus possible l'hôtel aujourd'hui quand même. Ce concept qui n'a pas évolué depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, quand on voyage, on se trouve, même si on met pas mal d'argent, dans des petites chambres, la déco, elle est toujours la même. On ne peut pas se faire à manger sur place. C'est toujours compliqué d'aller au restaurant seule. Ça l'a été, c'est beaucoup moins, mais une femme seule dans un hôtel où il y a une conférence, un congrès des sapeurs-pompiers, par exemple, ou un congrès de la sécurité ou de l'industrie où il y a énormément d'hommes, c'est rigolo 2 minutes, mais parfois pas 3. Donc voilà, c'est surtout quand on est une jeune femme. Et...
On n'a pas forcément envie de réitérer les expériences et on cherche quelque
voilà,
chose de
on
nouveau.
Cherche aussi d'être dans un endroit où on va pouvoir appeler sa famille après les réunions qui ne cessent pas et d'avoir un endroit où on peut se retrouver, que ce soit joli et qu'on ait envie de se sentir bien, pouvoir passer les derniers calls qu'on a à passer. Peut-être si l'hôtel est très très bien placé, mais si l'hôtel est très bien placé, il est donc très cher. Mais en tout cas, pouvoir aller faire un peu de shopping, parce que les femmes, on a toujours su combiner le pleasure, hein, ce qu'on appelle le business, avec du temps libre, même pour qu'un quart d'heure, s'évader, faire 3 courses, ramener un souvenir à chez soi, à ses enfants, à son mari, etc. Et donc, tout ça nous manquait terriblement et on trouvait ça très monotone et pas très simple, avec du wifi qui ne marchait pas. On mangeait dans des boîtes à pizza, c'était plus complexe, hein. Même aujourd'hui avec Deliveroo, si vous faites livrer dans une chambre d'hôtel, vous n'avez pas forcément de couvert, vous n'avez pas, voilà.
Oui, il manque toujours quelque chose, c'est pas adapté, et finalement, ça vous a donné.
Voilà, c'est-à-dire qu'un manque, c'est-à-dire dans notre utilisation effectivement assez courante de l'hôtel, comme il est envisagé depuis la nuit des temps, on se sentait très frustré, notamment esthétiquement et techniquement et confortablement, voilà, dans le confort. Et donc, on s'est mis elle a commencé à me dire, voilà, et évidemment, Airbnb, moi, je suis très anglophone, donc je suivais Airbnb depuis longtemps, et évidemment qu'Airbnb, on avait tout de suite compris depuis 2008 qu'Airbnb allait changer le visage aussi du voyage et de la capacité à se loger en dehors de chez soi quand on voyage en loisir. Et on avait bien compris que ça pourrait toucher aussi les business puisque c'était des formules très agiles pour des boîtes, des plus petites boîtes notamment, qui cherchent toujours à loger leurs coéquipiers de façon moins chère. Et donc, on avait aussi vu, et ça, c'est peut-être peu de gens l'avaient vu, que légalement, et on s'est beaucoup intéressé à ça, que Airbnb pouvait avoir un côté totalement illégal puisque on ne pouvait pas sortir comme ça à foison de l'habitation au détriment des habitants donc pour faire de la location courte durée. Et donc on avait bien compris que l'habitation pure n'était pas le lieu où on pouvait faire de façon pérenne un logement professionnel.
On l'a bien vu notamment avec toutes les polémiques qu'il y a eu dernièrement sur Paris.
Absolument, Paris, New York, Stockholm, etc. Barcelone, n'en parlons pas. Et donc, face à ça, on s'est dit, il faut qu'on trouve une façon de faire qui soit légale et officielle. Et donc, on avait très vite compris qu'il fallait chercher des lieux commerciaux qu'on pouvait transformer en des lieux d'hébergement en courte durée. Et donc, on a monté tout notre concept autour de ça. Et très vite, donc, on avait quand même, et ça, c'est important, en tête, le beau, l'esthétisme. Il fallait que ce soit joli. Que là où on arrive, les gens se sentent bien personnels, que ce soit très personnel comme lieu.
C'est ça, personnalisé et personnalisable.
Voilà, que ce ne soit pas d'une froideur, parce qu'il y a des endroits très jolis. Hein. Quand on va à l'intercontinental, alors les parties communes sont splendides, évidemment, à Lyon par exemple, et les chambres, ben, elles sont jolies. On ne peut pas dire qu'elles ne sont pas jolies.
Mais assez froides.
C'est assez froid et c'est toujours pareil. C'est-à-dire que votre voisin, il aura la même que vous, et puis c'est infini. Et si je vais à New York, à l'intercontinental, j'aurai la même chambre. Et si je vais à Tokyo, la même chambre, etc.
Les standards des grands groupes hôteliers, exactement.
Et donc, nous, on s'est dit, on ne va pas mettre tout notre argent dans les parties communes. On va mettre tout notre argent dans les suites, avec une déco qui sera un peu plus exclusive, qui sera même très, très, très recherchée. Et on racontera une histoire à chaque fois. Et pour autant, on ne négligera pas les standards, c'est-à-dire le confort du lit, où le lit doit être parfaitement confortable. Donc, on y mettra très cher, on y mettra des lits de très, très bonne qualité avec de jolies couettes et des beaux coussins. Et on aura du Wi-Fi qui fonctionnera. Et évidemment, Stéphanie et moi, quand on a commencé à avoir ces idées-là en 2013, nous travaillions chacune encore de notre côté. Donc, on ne pouvait pas attendre les gens sur le trottoir pour leur remettre... des clés, n'est-ce pas? Donc, on a tout de suite envisagé sur une page blanche comment on allait pouvoir remettre des clés virtuelles pour que les gens puissent rentrer tout seuls, de façon autonome et libre, dans leur suite. Et on a appelé ça des suites puisque les tailles sont plus grandes qu'une chambre normale. Et on a donc appelé ça des suites puisqu'on a un endroit à vivre, un endroit à dormir, un endroit pour se baigner, avec des belles baignoires, et un endroit pour travailler.
Et alors finalement, quelle est la différence avec un appart-hôtel ?
Alors dans les appart-hôtels, il y a ce qu'on appelle des cuisines. Et ça, nous ne voulions pas de cuisine, puisque la cuisine, elle est très compliquée à nettoyer pour qu'elle soit impeccable. Elle laisse des odeurs et elle n'est pas toujours belle. Alors nous, ce qu'on a dans nos suites, évidemment, on a des placards cachés dans lesquels il y aura un micro-ondes, une bouilloire, une Nespresso. Le point d'eau se fait à partir de l'endroit de la salle de bain. Et puis, on a des vraies assiettes, des vrais verres, des vrais couverts, et on peut se faire un festin. Voilà comment est né Mi Hotel. Mais il y a quelque chose que je veux dire par rapport à donc, c'est vraiment né d'un besoin. Donc, on a investi beaucoup dans la technologie, on est parti d'une page blanche, on a eu un site internet payant alors qu'on avait deux suites. Donc, on avait déjà la vision un peu global d'une entreprise qui tienne la route. On avait la possibilité d'ouvrir nos suites à distance, donc très rapidement, de commander la lumière, le chauffage, la climatisation. Donc tout ça, ce sont des technologies propriétaires, c'est important de le dire, qui donnent la grande spécificité et aussi le fait que comme ça, on a pu lever des fonds, puisque on a, avec très peu de suites, rapidement levé des fonds, puisque les gens ont compris qu'il y avait un outil propriétaire derrière qui pourrait dupliquer le modèle de façon plus industrielle.
Quand vous dites un outil propriétaire, qu'est-ce que...
C'est du développement du code informatique que nous avons développé pour nos propres besoins. Si on n'a pas acheté des solutions qui existaient, on a développé des outils propriétaires, des applications internes pour gérer les plannings, les femmes de chambre, etc. Et des applis, une appli client pour gérer les clients et une appli externe pour que les clients puissent gérer leurs propres réservations en dehors du site internet sur leur ordinateur.
Donc vous-même à deux, vous êtes lancé dans ce projet de codage et finalement un petit peu digital, peut-être un petit peu bien loin de l'hôtellerie qu'on peut connaître effectivement traditionnelle.
Tout complètement digital, tout à fait. Alors c'est notre vision. J'ai été très impliquée dans ce qu'on appelle la transition numérique, mais moi ça fait bien longtemps que je suis là-dedans. Et donc on avait une vision très rapidement. Stéphanie, donc elle gérait toute la partie investissement, immobilier, etc., qu'elle maîtrisait fortement bien. Et moi, j'ai géré dès le départ toute la partie techno, marketing. Et donc, moi, j'avais une vision, évidemment, avec les échanges, on faisait beaucoup de brainstorming avec Stéphanie, notre vision de comment on voulait que ça se produise, que ça soit simple en quelques clics et que quand on ouvre la porte, la lumière s'allume et que la porte soit... on puisse vérifier que les portes soient fermées à distance, etc. Tout ça, on avait une vision très claire de ce qu'on voulait et on a rencontré des super geeks, donc de jeunes développeurs et des web designers, etc. Et on leur a confié notre rêve et nous l'avons rêvé et ils l'ont fait, voilà. Mais ça nous appartient.
Et votre concept aussi comprend le caractère d'avoir beaucoup de disparités au niveau des lieux d'ancrage, en fait, des suites à Lyon. Pourquoi avoir fait ce choix de finalement ne pas concentrer toutes les suites au même endroit ?
Justement, c'est un petit peu nous ce qu'on avait envie de faire, c'est-à-dire ce côté un petit peu plus intimiste, un petit peu plus confidentiel, où au lieu d'avoir un grand bâtiment avec des grands couloirs et des chambres plutôt petites souvent, de chaque côté du couloir, on avait envie, nous, d'avoir des lieux parsemés dans la ville, dans des quartiers hyper bien placés, intégrés à la vie lyonnaise, et on le fera de même quand on pourra sortir, quand on ira investir dans d'autres villes, mais vraiment que quand on arrive à Lyon, en tant que business, ou en loisir, ou en visiteur, touriste étranger, longue distance, d'arriver, de se dire, eh bien, je vais vivre comme un Lyonnais. C'est aussi l'idée d'Airbnb, d'ailleurs, du partage et de l'échange. Et on avait vraiment cette envie-là de dire, les gens vont arriver dans des lieux, ils vont être autonomes et ils vont pouvoir profiter de la ville comme un Lyonnais, en plein cœur de ville, hyper bien placé, dans des bâtiments historiques, des beaux bâtiments lyonnais. On a vraiment le choix entre la Renaissance, jusqu'à l'haussmannien, il y a une grande palette, une grande diversité architecturale à Lyon, et de pouvoir être dans des beaux lieux comme ça, bien intégrés dans la ville, et comme ça, quand on a fini sa réunion, eh bien on peut rapidement, en rentrant chez soi, s'arrêter, faire un peu de shopping, aller dans le petit resto hyper sympa qu'on aura conseillé sur l'appli, ou qu'on aura fait réserver à l'avance, ou se faire livrer un plateau repas, vivre vraiment un moment... très convivial dans son lieu, dans un lieu de vie qui n'est plus impersonnel, qui est personnel et qui est cosy, quoi, qu'un petit cocon de vie, d'un moment où malgré le travail qui va être un peu lourd peut-être pendant ce voyage de business, et ben on va se retrouver dans un lieu hyper chaleureux, hyper cocon. Voilà.
Et finalement, vous le disiez, chacune des suites sont assez... unique et avec une capacité assez spécifique pour chacune d'elles. Elles ont chacune un nom, chacune une atmosphère différente.
Absolument. Elles racontent une histoire chacune. Elles sont scénarisées de façon différente.
Et j'ai aussi lu que vous aviez un cahier des charges qui était vraiment assez précis pour chacune d'elles. Est-ce que ça a été difficile de trouver vraiment tous les partenaires pour mettre en place ces idées, justement, pour chaque suite ?
Non, en fait, on a une belle équipe depuis le début. Donc, on a nos geeks qui permettent d'ouvrir et fermer les portes, etc. On a des domoticiens et on a un électricien. Donc, ça, c'est la base de notre équipe. Et après, autour de ça, il faut avoir un bon plombier, un bon maçon, effectivement. Et puis, on fait appel à des designers de plus en plus pour nous aider. Au début, on a tout fait toute seule avec Steph. Je pense que c'est notre force aussi, c'est qu'on avait vraiment une vision du beau, quoi. Enfin, le beau pour le beau. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on avait en nous, Stéphanie et moi. Je pense pas que tout le monde est... Alors, toutes les suites sont différentes. Il y a des suites qui vont plaire à certains, d'autres moins et d'autres plus à d'autres, etc. Chacun trouvera sa suite qui lui parle et qui lui correspond. Et ça, c'est l'idée qu'on en a. Mais on ne peut pas nous reprocher, en tout cas, de ne pas savoir accorder les couleurs et les objets entre eux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on avait dîné, et Stéphanie et moi.
Oui, vous avez bien voulu faire, dès le départ, vraiment mettre les choses harmonieusement dans chacune des suites et créer vraiment des atmosphères qui soient propres à chacune d'elles.
Voilà, avec un goût, pas universel, c'est très, très présentieux de dire ça, mais en tout cas, qui vont toucher les gens... vraiment, je pense que le beau dans notre société aujourd'hui est très important. C'est quelque chose qui se déploie, qui devient vivant en fait. Et c'est vraiment quelque chose qu'on avait vraiment au fond de nous et qu'on a exprimé. Alors, on n'est pas des artistes, attention, pas du tout, c'est pas ça. Enfin, mais il y a une forme artistique quand même dans l'expression. Et ça, je ne pense pas que ce soit donné, voilà, que ce soit courant tout le temps d'avoir vraiment cette envie, cette motivation profonde de faire des choses jolies, presque artistique, et je pense que Stéphanie et moi, on est vraiment animés par ça, et ça nous nourrit beaucoup, et on est très très heureuses quand en face, les clients nous renvoient ça en disant, mais vraiment, vous tenez un concept, il y a quelque chose vraiment d'unique, et quelque chose qui est réjouissant, en fait, quand on vient chez vous, et quand les gens le perçoivent comme nous, on a eu envie de le créer, alors on sait qu'on a gagné l'histoire, et que vraiment, on touche quelque chose d'un peu universel et d'un peu qu'on peut partager avec une grande partie de la population dans le monde, en fait.
Oui, c'est parce ça. Que finalement, vous accueillez aussi bien une clientèle étrangère que domestique.
Tout à fait.
Et finalement, comment ça marche l'offre que vous proposez? Puisque comme vous le disiez, chacune des suites sont un petit peu disséminées dans la ville. Donc, comment ça marche puisque vous avez quand même un service hôtelier?
Tout à fait. Très bonne question. Alors.
Au niveau des clés, vous aviez dit que ça se passait tout sur... téléphone.
Voilà, vous recevez un code et ce code, soit vous l'utilisez avec votre smartphone, soit vous le tapez et vous rentrez dans votre suite. La suite s'allume immédiatement quand la porte s'ouvre et vous vous retrouvez chez vous. Et évidemment, de l'intérieur, vous pouvez vous verrouiller, vous enfermer. Vous êtes chez vous pendant le temps de votre location.
Et alors, toutes ces idées vous sont venues donc des besoins que vous aviez anticipés ou c'est vraiment les personnes, les partenaires que vous avez eus au niveau du développement de la domotique, etc., qui vous ont conseillé certaines choses?
C'est un échange, évidemment. Il y a des choses que nous, on a demandées et qu'on a souhaitées. Et comme c'était un projet qui a beaucoup plu, qui a parlé à pas mal de gens, c'est vrai que les gens qui devenaient nos partenaires sont devenus aussi force de proposition, évidemment, dans les solutions techniques. Voilà, ils se sont investis complètement dans les scénarios lumineux, dans les scénarios domotiques, dans la technique, dans l'utilisation du site internet, etc., etc.
D'accord. Je sais aussi que vous marchez avec beaucoup de partenaires type Baguette à bicyclette sur Lyon, Sunset Apéro aussi, parce que c'est des personnalités que j'ai pu interviewer sur le podcast. Comment ça s'est fait justement trouver toutes ces personnalités pour vous accompagner dans ce projet?
Eh bien, à chaque fois que... effectivement, comme vous l'avez dit, donc on se pose, on se dit, bon, on va s'installer... Donc, pour reprendre un peu l'idée, donc effectivement, nos suites sont parsemées. Et puis aussi, on a des groupes de suites. On a l'hôtel particulier Gaëton et maintenant la Tour Rose dans le Vieux-Lyon. Donc là, on a entre 8 et 14 suites. Hein, ça reste des petites entités. Donc, et puis après, on a des groupes de 4, de 2, de 4 suites, etc., disséminés, mais quand même rassemblés dans le deuxième arrondissement. Donc, on est quand même... on est très ciblé sur là où on s'installe, puisque ce sont des quartiers qui sont très demandés, qui sont des quartiers où il y a autant de business que de loisirs, et les bâtiments sont magnifiques. Donc, à chaque fois qu'on ouvre une ou des suites dans un lieu ou plusieurs lieux, on se dit, bon, je suis donc client en business ou en tourisme ou en loisirs, j'arrive là, qu'est-ce qui va me manquer? Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire? Alors, je vais peut-être avoir besoin d'un vélo. Est-ce qu'on peut mettre une offre de vélo à disposition? Allez, peut-être. Je vais avoir besoin de me nourrir. Donc, dans les hôtels, le moment du petit déjeuner, il est hyper important. Et nous, on n'a pas de restaurant sur place. Alors, parfois…
Pas de room service non plus.
Voilà. Et donc, on n'a pas le room service. Mais par contre, on s'est dit, nos clients vont être des gens autonomes, on va leur proposer tout un service d'extra et qu'ils pourront réserver… Pendant là, donc au moment où ils réservent sur Internet ou par l'appli, il y a les extras arrivent en fait, hein, très vite. Et donc, là, vous pouvez réserver un petit déjeuner, etc. Et on s'est dit comment on va livrer le petit déjeuner. Au début, Stéphanie et moi, on s'est dit, bah, on va se débrouiller un peu toute seule, on va rassembler les viennoiseries, etc. Le café, le thé, le jus de fruits, il est déjà dans la suite, donc il suffit de rajouter du pain frais, du beurre. Au début, on avait même du beurre dans les suites qu'on changeait, etc. Si les gens prenaient le petit déjeuner, enfin, c'était toute une logistique. Et puis après, quand on a grandi, on s'est dit, bah non, c'est plus possible, on va pas faire ça nous-mêmes, avec deux suites, ça allait, maintenant 4, 6, 8, 10, c'est plus possible. Donc il faut qu'on trouve un partenaire, et donc bah, là, c'est des recherches sur Internet, des recommandations, et tout d'un coup, vous en essayez un, puis un autre, et puis vous tombez sur celui avec qui il y a une adéquation totale, et baguette à bicyclette. Voilà, ça a été une évidence avec Débo et Caro. Ça a été...
Un super concept aussi.
Caro, elle a grandi aussi avec nous, elle s'est adaptée aussi à nos besoins. Ça a été génial de pouvoir faire des choses avec elle. Un jour, on a mis un truc, après on a revu nos petits déjeuners, après on a fait du sans gluten, après on a travaillé avec elle, on a fait des spéciales, des bagues spéciales mi-hôtel baguette parce qu'on voulait absolument mettre leur nom en avant. Je pense qu'elles ont beaucoup apprécié ça aussi. Voilà, on s'est retrouvés dans des conférences, dans des lieux. On a fait plein de choses ensemble et on est toujours contente de se voir et de se parler, de déjeuner ensemble aussi d'ailleurs. Donc, les gens qui travaillent avec nous, c'est souvent, ça devient même des amis, souvent, ou en tout cas des partenaires très proches. Et on essaye de développer une réelle convivialité autant pour nos clients que qu'avec nos partenaires.
Que vos partenaires, superbe. Et finalement, je sais que vous avez commencé donc toutes les deux avec Stéphanie. Finalement, les deux premières suites que vous avez eues, comme vous le disiez un petit peu, vous avez tout fait vous-même au tout départ. Les premiers petits déjeuners, les premiers accueils de personnes.
On a fait le ménage hein, quand on avait au début. On n'avait pas forcément de... Et on a eu très vite une femme de ménage qui est devenue une femme de chambre et qui est toujours avec nous, hein, qui est notre première salariée, qui était une fille géniale. Et qui est toujours là avec nous. On a sa belle-sœur aussi qui nous a rejoint. Donc, et c'est des gens qui sont là depuis 2013, hein, 2014. Mais oui, on a dû faire tout. Quand on monte une boîte, hein, alors c'est ce que je dis aux jeunes tout le temps, il y a des gens qui arrivent avec des projets, complètement des trucs, et puis on voit très vite, il y a beaucoup de personnel et tout, mais je leur ai dit, mais en fait, aucun rapport, à moins de lever une tonne d'argent, tout ça, au début, vous allez faire tout seul, en fait. Hein, emballer les colis dans les trucs... mettre le scotch, déballer, faire l'inventaire, ça va, voilà, la petite compta, tout ça, vous allez. Donc en fait, le profil de l'entrepreneur, c'est un profil d'une, c'est doit être des gens qui n'ont pas envie de gagner de l'argent, enfin que c'est pas là, tout de suite en tout cas, qui n'ont pas peur du risque, hein, et qui n'ont pas peur de faire tous les métiers du monde en très peu de temps, et qui ne comptent pas leurs heures. Donc ça, c'est des trois conditions sine qua non pour être un entrepreneur. Donc moi, je teste souvent les jeunes avant même de rentrer dans le détail de leur business plan. Moi, je pose toutes leurs données, tous leurs trucs. Bon, le concept, il est intéressant, je l'ai vu, mais après, je leur dis, OK, donc où habites-tu? Es-tu en couple? Quel est ton mode de vie? Qu'est-ce que tu aimes faire? L'argent est-il important pour toi dans la vie? À quel niveau? Es-tu prêt à renoncer? Quelle est ta capacité de travail? Sais-tu compter? Sais-tu faire un peu de compta? As-tu les bras assez solides pour porter des colis? Enfin voilà, en fonction de ce qu'ils font. Donc tout ça.
Oui, pour voir s'ils savent un petit peu tout faire.
Voilà, il faut avoir une capacité, une grande agilité. Il faut pas avoir peur d'être confronté à plein de situations différentes. Parce que l'école, c'est bien joli. Les concepts et les business plans bien écrits, etc., on peut tous le faire finalement, si on est un petit peu malin, un petit peu entouré. Mais après, concrètement, dans la vie de tous les jours, ben, il va peut-être falloir aller faire le ménage à un moment donné. Ah, et puis à minuit, il y a eu un problème de code. Parce que ça peut arriver au départ, vous imaginez bien qu'il a fallu tester quand même pas mal de choses. Ah, le code n'a pas fonctionné. Zut, comment je vais faire? Eh bien, il va falloir que je me déplace. Hein,
puis
il va
falloir... Je vais aller voir le client.
Voilà. Et puis que je lui offre un petit jus de fruits pour le réconforter parce qu'il m'a attendu 10 minutes devant la porte, etc. etc. Ah, tiens, la femme de chambre, elle a fermé la porte à clé, donc le code ne fonctionne pas. Et bien, tiens, c'est qui est-ce qui va y aller? Ben, c'est toi. Tu ne vas pas aller appeler un membre de ton équipe qui n'existe pas, en fait. Hein. Mais bon, par contre, il faut faire croire que tu es une grande entreprise. Hein. Nous, on nous a appelés très vite. On nous a appelés, de grands groupes nous ont appelés quand ils étaient en train de revoir, pas mal de groupes hôteliers qui étaient en train de revoir complètement leur concept. Ils pensaient qu'on avait, comme on avait un site marchand, qu'on avait une marque, qu'on faisait beaucoup de marketing, qu'on passait beaucoup dans la presse parce que les gens s'intéressaient à nous. Eh bien, les gens pensaient qu'on était toute une équipe derrière. Voilà. Et quand le comptable...
Mais vous étiez deux.
Voilà, on était deux pendant 2 ans, hein, 3 ans même. Et tout d'un coup, le fournisseur qui envoie une relance, Et ma Steph qui dit « Ah, je suis désolée, la comptable a dû oublier. » Et je l'appelle tout de suite pour voir ce qu'il en est. Alors, en fait, c'est un jeu aussi, hein, tout ça. C'est ça aussi qui est important, hein, quand on monte son...
Faire croire qu'il y a de l'expertise derrière, voilà. Finalement, seulement deux petites têtes.
Alors, évidemment, il faut avoir les épaules solides, il faut être bien entouré, il faut avoir du temps pour ne pas avoir besoin d'argent tout de suite. Nous, on a eu longtemps, moi, jusqu'en 2017, j'avais deux jobs. Hein, donc, j'avais gardé mon job puisque... Moi, j'avais besoin de rentrer d'argent. J'étais complètement seule et autonome, donc je n'étais pas en couple et j'avais besoin de cet argent pour vivre. Donc, je ne pouvais pas lâcher mon job rapidement. Stéphanie, elle était plus installée dans la famille et donc elle avait, en 2014-2015, elle a arrêté de travailler pour autrui et elle a pu commencer à se consacrer à Miotel et donc elle était beaucoup au téléphone avec les clients. Et puis, à partir de 2017, enfin, on a réussi notre première levée de fonds, donc je savais que j'allais pouvoir être payée, les affaires allaient bien, et donc là, j'ai quitté donc, l'IDRAC en 2017, enfin, décembre 2016, et au 10 janvier 2017, j'étais libre, et on a recruté, voilà, on a eu notre première, d'abord en auto-entrepreneur, notre premier coéquipier qui nous a rejoint, qui était un ancien étudiant de l'IDRAC d'ailleurs, voilà. Et l'aventure.
Magnifique. Petit à petit. Ça doit toujours être assez drôle de voir qu'on a notre premier partenaire vraiment dans l'entité, dans l'entreprise. C'est quand même un pas en avant, j'imagine, dans les grandes étapes.
À la 2017, ça a été une année de grande excitation, de grande énergie. Première levée de fonds, donc un peu d'argent devant soi, c'est beaucoup moins stressant. Le chiffre d'affaires qui grandit, des suites qui arrivent parce que des propriétaires nous font confiance. Et puis... Et puis un coéquipier qui nous rejoint parce qu'il est enthousiasmé par le projet et qui crée lui-même son poste. Alors lui, c'était vraiment une aventure extraordinaire, Wilson, qui crée lui-même son poste, qui crée vraiment son poste, voilà, avec nous complètement. Et on est restés un moment tous les trois.
Génial. Parce que vous dites que vous êtes avec des investisseurs. Finalement, c'est quelque chose que j'ai aussi pu voir sur le site internet. Il y a un encart qui est spécialisé pour le fait de vouloir investir dans Miotel. Donc finalement, je voulais vous demander quel était le modèle économique finalement de toutes vos suites. Comment ça marche?
Alors, c'est aussi une très bonne question. Donc en fait, on a plusieurs types d'investisseurs. On a ceux qui ont investi en capitaux propres dans l'entreprise et puis ceux qui nous rejoignent avec de l'immobilier ou qui achètent de l'immobilier avec qu'on leur trouve et qui deviennent nos bailleurs, nos propriétaires à qui on verse donc un rendement chaque mois, etc. Donc là, effectivement, il y a tout un tas de gens qui nous contactent régulièrement pour nous proposer. Alors, ça ne marche pas souvent hein, parce que nous, comme on a un cahier des charges précis, vous l'avez dit, on n'a pas bien répondu à cette question, mais oui, on a un cahier des charges précis dans le sens où une suite Miotel, elle est bien précise. Hein, il y a telle taille de lit, telle taille d'espace, la baignoire scénarisée, etc., etc. Donc, effectivement, il faut trouver l'immobilier qui corresponde, qui nous permette de faire ça, de construire tout ça, de mettre de la domotique filaire, hein, puisque tout est filaire, on ne peut pas compter sur le Wi-Fi aujourd'hui. Ceux qui vous diront qu'ils mettent tout en Wi-Fi, c'est très aléatoire, donc nous, tout est en filaire. Donc tout ça, effectivement, ça nécessite un cahier des charges précis. Et donc, il y a des gens qui nous proposent de l'immobilier, mais on ne peut pas y aller parce que ça ne rentre pas dans ce cahier des charges, ça ne nous permet pas de faire une suite Miotel.
D'accord, donc finalement, vous n'êtes pas propriétaire de chacune des suites que vous détenez.
Voilà, on n'est pas propriétaire. En tout cas, Miotel, ou la société MIH, qui est exploitante, n'est pas propriétaire aujourd'hui de ses murs.
Je vois. D'accord, très bien. Et pareillement pour la Tour Rose, c'est le même système?
Alors, la Tour Rose, c'était encore un autre système, puisque les murs appartiennent à la société, une société mixte de la ville de Lyon, qui s'appelle la Sacvel, et qui est donc, qui possède les murs, et nous sommes un peu dans le même système, c'est-à-dire que nous sommes leurs locataires, mais là, on a dû porter une partie des travaux pour pouvoir... remettre sur pied cette
magnifique tour. D'ailleurs, concernant cette tour rose donc, que vous avez commencé à exploiter là, début 2020, pourquoi avoir choisi de concentrer une petite dizaine de suites dans ce même endroit, alors que finalement, sur le concept général de Miotel, comme on en parlait tout à l'heure, les suites sont assez disséminées?
Alors, donc on a déjà un petit hôtel particulier qui s'appelle l'hôtel particulier Gailleton, dans lequel il y a 10 suites. Et donc ça, c'était déjà quelque chose qu'on savait faire. Et on est en train d'industrialiser le concept Miotel. Donc, on fera de moins en moins de suites par-ci, trois suites par-là. On cherche aujourd'hui à avoir 7 suites au même endroit à peu près, hein, pour des raisons de rendement, de capacité de ménage plus facile, effectivement. Donc, des femmes de ménage qui concentrent un peu plus leurs efforts. Effectivement, on sait que c'est quand même un peu mieux. Et puis, il se trouve que quand on nous a apporté, quand on a vu que la Tour Rose, il y avait une offre de reprise sur cette Tour Rose de l'activité, eh bien, on a vu qu'il y avait donc un restaurant. Donc, on n'est pas restauratrice. C'est là qu'on est allé chercher Ludovic et Tabatame, évidemment, pour qu'ils reprennent la partie restaurant.
Pour le food traboule.
Voilà, et qu'ils avaient ce projet food traboule, donc, qui est génial.
Encore une fois, un beau partenariat qui s'est très bien trouvé.
Ouais, ouais, voilà, c'est extraordinaire et on a hâte de tous se retrouver prochainement. Ça ne va pas se faire très vite, mais on espère quand même, surtout pour eux, ça sera un peu plus décalé que nous, mais bon, on va trouver un moyen de faire de la vente à emporter, de la vente, de livrer nos suites grâce à leur vente, à leur plat préparé. Ils vont nous préparer, enfin, on va faire un super truc là. Je viens de raccrocher avec eux et on va préparer un projet sympa pour aussi les faire travailler avant qu'ils ne rouvrent.
Un beau soutien en tout cas.
Voilà, on essaye de travailler tous ensemble et de faire des tas de choses. Et donc en fait, quand on a trouvé donc cette offre reprise, donc il y avait ce restaurant. Donc là, on a résolu le problème en apportant l'affaire à Ludo et Tabata. Et puis ensuite, eh bien, il se trouve que la partie qui était un hôtel, hein, donc qui est tombée en désuétude, eh bien, elle était faite ainsi qu'elle avait la possibilité de faire plusieurs suites qui étaient là et on n'a pas voulu tout casser. Et donc, on a récupéré les suites, on en a rajouté une ou deux grâce au vin rue du Bœuf. Hein, c'est un peu compliqué, mais ben, voilà, on a rajouté deux ou trois suites qui pouvaient s'imbriquer, plus un lieu d'événementiel. Et ce qui fait que c'est un parcours, hein, c'est les gens qui viennent à la Tour Rose, c'est un petit jeu de piste parce qu'il y a plusieurs maisons. En fait, il y a une maison sur la rue, puis une maison qui donne sur des jardins derrière. Et donc, ça reste quand même un principe très mi-hôtel où on n'est pas tous au même endroit. Il y a 9 suites d'un côté, 6 suites de l'autre, voilà, avec un parcours.
Oui, on ne se croisera pas en tant que client.
Voilà, ça reste très intime et il y a vraiment un côté très... D'abord, le lieu est absolument sublime sur ces jardins. Il y a un côté qui est ludique et qui est atypique et qui correspondait extrêmement, parfaitement bien à ce qu'on recherche quand on cherche des belles pierres et des beaux endroits.
Maintenant que vous êtes un petit peu plus ancré dans la vie de mi-hôtel depuis maintenant 2013, à quoi peut ressembler votre vie quotidienne au sein de la structure? Oui, je suis curieuse de savoir.
Écoutez, on a donc un rôle maintenant. On est en train de passer d'une start-up à une entreprise. Hein, si le Covid ne nous avait pas freiné, on était vraiment en plein développement, dehors de Lyon, etc. Donc, beaucoup de choses vont changer, hein, mais bon, on reste très positif. Nos associés nous ont soutenus. Nos partenaires bancaires, il y a une grande... Voilà, on est en train d'être soutenus. On va pouvoir rouvrir le 11 mai et on est bien contente. Mais notre vie quotidienne de Stéphanie et moi, c'était beaucoup de travailler le développement et donc d'ouvrir d'autres lieux. Donc ça, c'est un travail énorme. Donc, et de chercher des financements pour le faire. Donc, ça prenait une grande partie de notre temps. On se baladait pas mal en France et ailleurs. Et voilà. Et puis, il y a toute une partie, comme je le disais, on était en train de sortir du mode start-up. Donc, on a une équipe qui est super chouette et qui est très autonome. Hein. Pour travailler dans une start-up, il faut avoir envie d'être autonome aussi, hein. Tout comme les gens qui créent le modèle. Et donc, on est en train de passer d'un modèle start-up à un modèle plus d'entreprise. Je ne peux pas dire classique parce qu'on est encore petite et puis on est encore une TPE. Mais quand on a 10 personnes à manager et des femmes de chambre, eh bien là, il faut être...
Il faut commencer à créer une petite hiérarchie.
Voilà, il faut commencer à... Bravo Mathilde, tout à fait. Il faut commencer à organiser tout ça, avoir un rôle de management, pouvoir se réunir sans que ce soit trop lourd, mais assez régulièrement pour que les gens... pour qu'on comprenne ce qui se passe, les gens sur le terrain, comment ça se passe, puisqu'on y est moins. Et nous, on s'impose avec Stéphanie, et ça a été aussi une demande de l'équipe, on s'impose au moins une journée par semaine où on fait la visite des suites, on regarde ce qui va, ce qui ne va pas, et on est en cohésion totale avec le terrain, avec les gens du terrain, pour les soutenir, pour leur donner nos avis. D'abord, ça les réjouit, ça leur fait plaisir qu'on soit là avec eux, ça renforce leur motivation, et en plus, on résout plein de problèmes immédiatement, avec eux sur le terrain en disant bah non, ça on repeint, ça on change, ça on arrête, là il manque un coussin, etc. Là on change la chaise et avec eux on fait ce genre de travail sur le terrain et c'est génial et ça nous permet d'être très proches de nos clients encore puisqu'on vit les suites et de temps en temps On fait tourner nos équipes pour essayer les suites, pour être sûr qu'elles sont toujours aussi confortables et valides et qu'elles fonctionnent et qu'elles permettent de rendre le service attendu qui est à la fois donc le beau, l'esthétique, le confortable et le pratique, évidemment, et que tout fonctionne. Voilà.
Donc finalement, beaucoup de management participatif qui est en train de se mettre en place.
Voilà, mais avec un management présent, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit plus présente, hein, on ne peut pas, il faut qu'on, l'une ou l'autre, à tour de rôle, on soit bien présente avec les équipes qui sont un peu plus grandes, hein, quand on a maintenant donc 10 personnes, c'est vrai que c'est plus la même histoire. Il faut arriver à créer des rencontres régulières. Voilà.
Bien sûr. Quels sont pour vous les points importants, je dirais, à valider quand on veut travailler donc en hôtellerie aujourd'hui, finalement dans un groupe hôtelier plus ou moins grand, des indépendants? Qu'est-ce qu'il faut faire en hôtellerie aujourd'hui? Quelles sont les valeurs fortes?
Alors, ça dépend de quel côté on se positionne, par rapport à quoi et par rapport à qui, mais...
Par rapport au produit, je dirais.
Alors, si on est par rapport au produit, le produit n'a d'existence qu'avec son client en face, avec son persona aujourd'hui, hein, on va jusqu'à faire du one-to-one. Donc, qu'est-ce qu'on oppose ou qu'est-ce qu'on met en face? Opposer, c'est pas très joli, mais qu'est-ce qu'on met en face du produit? Eh bien, c'est des personnes, hein, des gens qui viennent vivre le produit. Et donc, aujourd'hui, elles sont multiples et il faut pouvoir vraiment comprendre cette multiplicité-là. Et ça, on ne peut le faire aujourd'hui qu'en utilisant du digital, en posant des questions à ses clients, sur les réseaux sociaux, en utilisant des outils performants de marketing automation, bien sûr, et tout en respectant les règles, évidemment, RGPD et les réglementations diverses et variées de confidentialité, de respect des données et des gens. Et nous, on est en plein là-dedans. On a été les premiers à faire des tas de choses, d'ailleurs.
Bien sûr, j'imagine, puisque vous marchez tout en digital avec des applications, etc.
Plus rapidement que certains, certainement, d'être vraiment en règle et de comprendre, d'ailleurs, les nouvelles réglementations. D'être conforme à RGPD, de faire du strong customer authentication, c'est-à-dire le 3D Secure qui évolue vers une authentification renforcée du client, qui permet vraiment de s'assurer que c'est bien le client qui paye à distance parce qu'il y a mis son empreinte digitale sur son système bancaire, etc. Donc ça, on va très loin, hein, c'est sûr. Donc aujourd'hui, on s'assure que notre offre, elle répond à chacun de nos clients qu'on a identifiés et à chacun de leurs besoins. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait fait un petit concours l'année dernière qui a très bien marché et qu'on a clôturé en décembre 2019. On a cherché...
Sur les couples.
Voilà, le couple de testeurs. Bravo, vous savez très bien suivi. Et donc, on a un couple de testeurs qui est un petit peu arrêté là, malheureusement, à cause du Covid, mais qui nous permet, en live et en direct et en partageant avec les gens, de faire des vrais tests de chaque suite et d'avoir leur feedback sur... Et ils se positionnent tantôt au business, tantôt en couple en loisir, tantôt en solo, etc. Et ils nous font des retours hyper intéressants.
Ça devait être une belle expérience, effectivement.
Alors nous, on leur a dit, à notre couple de testeurs qu'on leur a dit, je vous préviens, il faut tomber enceinte, hein, pendant cette année. C'est exactement ce qu'on s'est dit, ce serait génial qu'en plus je tombe enceinte pendant cette année où on découvre toutes les suites, etc. Voilà.
Parfait. Puisque c'est vrai qu'à ce moment-là, le but était un petit peu de se questionner sur la réplication de votre concept sur d'autres villes. C'est bien ça?
Oui, tout à fait. Sur d'autres villes. Et puis même s'assurer que le concept vit toujours bien, qu'il est bien en cohésion avec les besoins des gens. Aujourd'hui, les besoins des gens, ils évoluent très vite. Enfin, leurs besoins, mais en tout cas, leur mode de vie évolue tellement vite que forcément, il y a des besoins qui se transforment un peu. Et donc, il faut toujours... Par exemple, on voit de plus en plus les gens aujourd'hui n'ont pas envie. En fait, ils veulent choisir le moment où ils rentrent en contact avec quelqu'un. Donc, les gens qui réservent 100% sur le net et avec qui on n'a aucun contact, il y a des gens qui sont complètement autonomes, libres. Ils vont sur le site internet parce qu'ils ont entendu parler de nous, parce qu'ils nous ont trouvé en faisant une recherche. En 3 clics, ils réservent, ils reçoivent un code et ils vont arriver chez nous. Ben, ces gens-là, pour la plupart, souvent, ils n'ont pas envie d'être en contact avec des gens. Donc, quand on a besoin de leur envoyer des informations, il faut trouver des moyens de rentrer en contact avec eux qui soient peu intrusifs. Et donc, nous, on a très vite mis en place des chats, des SMS, et ça permet d'être moins intrusif et de répondre aux besoins de ce type de client qui est « je ne veux pas qu'on me casse les pieds » ou alors « si j'ai besoin de rentrer en contact avec quelqu'un, c'est moi qui le décide au moment où je le décide ». Et donc, on essaye d'évaluer ce point de contact-là, à quel moment il se place. À quel moment du cycle d'achat
est-ce qu'il se place déjà et quand est-ce que la personne voudra être en contact avec nous. Et parfois, cette personne-là, elle ne veut jamais être en contact avec personne, sauf s'il y a un problème. Et s'il y a un problème, alors là, par contre, il faut que la réponse soit immédiate. Et donc, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre en place un accueil téléphonique 24/24 avec donc des grosses astreintes la nuit qui font qu'on fait tourner nos équipes, évidemment, enfin des grosses astreintes, des astreintes, qui fait que s'il y a une urgence, il y a toujours quelqu'un au bout du fil. On s'est rendu compte que c'était vraiment un besoin.
Ça permet une certaine liberté pour clients aussi aujourd'hui qui sont, je pense, des valeurs assez fortes en hôtellerie.
Voilà, et de rassurance.
Et finalement, j'aimerais savoir, par rapport à tout ce que vous m'avez dit, donc que ce soit votre parcours, la création de Mi Hôtel, je suis curieuse de savoir quelles sont vos inspirations, finalement, au quotidien, que ce soit personnel ou professionnel, je ne sais pas, peut-être que vous lisez beaucoup de presse, peut-être aussi des lectures, que ce soit des podcasts ou bien des personnes même à suivre. Est-ce que vous aimeriez nous partager quelques petits tips?
Tout à fait. Alors, je suis donc anglophone, moi, hein, donc je lis beaucoup de choses en anglais. Je fais beaucoup de choses de recherche sur tout ça et évidemment très proche du digital. Donc moi je suis tout le temps grâce, je donne encore quelques cours hein, d'ailleurs à l'Institut Paul Bocuse, je suis toujours ravie chaque année de donner un cours qui s'appelle Sharing Economy et qui me permet évidemment de me remettre sur toutes mes recherches digitales. Donc au moment de ces cours je donne des cours pour d'autres écoles, peu maintenant, j'ai moins le temps. Mais dans ces moments-là, je fais beaucoup de cours sur le marketing et l'innovation, sur les piliers d'innovation notamment. Et donc, je vais beaucoup travailler mes lectures là-dessus. Je dois dire que je suis très inspirée par de la presse comme Forbes ou Fast Company, qui est vraiment un support, je trouve, d'une inspiration extraordinaire sur les idées géniales des start-upers du monde entier, mais notamment anglophones et américaines notamment. Donc, c'est vrai que je vais beaucoup m'inspirer et regarder ce qui se passe ailleurs dans le monde grâce à ces supports-là. Je suis une grosse fan de tous les TEDx et TED, etc., que je consulte régulièrement, mais en anglais principalement. Hein, je trouve vraiment que forcément cette communauté anglo-saxonne, elle est très intéressante. Tout ce qui se passe aussi dans les startups en Israël, sur le mode de la tech, c'est très dynamisant. Il y a énormément de choses qui se passent, notamment sur les ouvertures à distance, la sécurité, etc. C'est très, très intéressant. Et puis après, évidemment, il y a toute l'inspiration déco. Et là, évidemment, bah, alors là, on est dans tous les magazines de déco. On a plein d'abonnements. Alors, Pinterest, c'est extraordinaire aussi, Instagram. Mais Pinterest, c'est vraiment génial. Quand on cherche quelque chose, quand on a une idée, on va sur Pinterest, on trouve toujours une réponse.
Vous êtes de grandes adeptes, vous.
Ouais, depuis le début, moi, en plus, je pense que j'ai fait partie des... En plus, la cible, c'était les femmes quarantaines, etc. Et tout de suite, j'étais connectée à Pinterest avant longtemps. Et certainement grâce à une étudiante, d'ailleurs, à l'époque, qui était anglophone aussi et qui m'avait dit « Mais vous n'avez pas vu ça, c'est incroyable. » Et ça commençait aux États-Unis et donc peu de gens l'utilisaient en France. Donc, j'ai mis mon associée sur Pinterest assez rapidement. Elle a adoré parce qu'elle est très visuelle. Elle a vraiment adoré. Et c'est elle qui s'en sert le mieux, d'ailleurs, que moi maintenant. Elle est grande fan. Elle adore ça. Elle est vraiment très, très source de d'inspiration aussi pour les suites. Elle est vraiment un profil déco de dingue. Elle est vraiment très, très inspirante. Elle-même, d'ailleurs.
Bien sûr, le fait d'être associée aussi, c'est très inspirant, j'imagine.
Ouais, on est très complémentaires, on est très similaires et très différentes en même temps. Et on partage la déco. Et elle, c'est une grande curieuse. Elle passe, elle a parfois des moments où elle passe énormément de temps sur la recherche d'idées déco sur Internet. Elle y passe beaucoup de temps et elle nous fait des débriefs. On partage des notes sur Evernote et le matin je me réveille, je me dis ah, elle a été très active hier soir,
elle a eu plein d'idées.
On place nos notes par inspiration, voilà.
Je vois. Et quelque chose qui peut être aussi demandé, c'est est-ce que le concept de Mi Hôtel a été vu dans d'autres pays, puisque je sais que c'est très innovant en France, mais est-ce que ça a été répliqué ou même ça existait déjà à l'international?
Alors, moi je ne pense pas tout existe, on n'est pas les seuls à avoir ces idées-là, mais je pense que la façon dont on a mis bout à bout plein de morceaux, donc les appart-hôtels existent depuis très longtemps, le système de suite existe dans les hôtels, la location courte durée existe depuis très longtemps, ou plus ou moins longue durée. Donc nous, on a simplement transformé et mis bout à bout, et on a mis notre propre patte. Je pense qu'il y a des endroits où il y a des codes, hein. Il m'est arrivé de voyager, de me retrouver avec des codes, mais qui étaient beaucoup plus manuels, hein, qui étaient beaucoup moins techniques que nous. On voyait bien qu'il y avait beaucoup moins d'investissement. C'est-à-dire que nous, on a un parti pris très fort, on a fait énormément d'investissements tech. Nous, on a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans la tech. Il y a peu de gens qui veulent faire ça quand ils démarrent, hein. Nous, on a eu de la chance d'être suivis par des associés, des actionnaires, etc. Il a fallu lever beaucoup d'argent pour la tech, hein. C'est des centaines de milliers d'euros.
Oui, c'est ce qu'il y a de plus coûteux.
Voire millions d'euros, donc. Donc, c'est vrai que les gens qui démarrent des projets comme ça, alors les très gros, bah, ils mettent du temps à sortir de leur modèle, hein, les groupes Accor, etc. Ils ont des moyens, mais ils mettent beaucoup de temps à sortir de leur modèle un peu figé avec leur structure. Et c'est tout à fait normal. Et ils apportent autre chose sur le marché. Mais donc, un concept où on allie autant la déco, la tech, vraiment, il y a quelque chose qui est assez unique. Et je pense que des concepts de micro-hôtellerie, il y en a. On parle avec beaucoup de gens sur Paris, sur Rennes, etc. Des gens qui font de la courte durée. On est en train d'ailleurs d'essayer de se rassembler tous, d'ailleurs, parce qu'on a tous quelque chose à raconter. Mais on a tous notre spécificité et je ne pense pas qu'il y ait de gens qui soient allés aussi loin dans la tech que nous et de la déco, aussi extrémistes de la déco et de la tech que nous. C'est ça que je voulais dire.
Donc finalement, vous diriez que c'est grâce au fait d'être petit, finalement, d'être une petite structure, qu'on arrive à faire d'aussi grandes choses, finalement, et de rassembler
non,
autant de gens.
Je pense que ce n'est pas ça que je voudrais dire exactement. C'est bien que vous ayez relevé ça. Ce que je voudrais dire, c'est que nous, on a eu de la chance, quand on a démarré, on est parti sur une page blanche, tout était possible. Et donc, notre vision du monde, et du monde en tout cas de ce qu'on voulait faire, qui correspondait à nos besoins et nos envies, on a pu le réaliser à partir d'une page blanche. Et donc, il se trouve que nos envies à ce moment-là, elles correspondaient parfaitement à un grand changement de mode de consommation et de communication dans le monde, puisque la naissance d'Internet dans les années 2000 a révolutionné tout cela, et c'est assez récent finalement, hein, c'est une vingtaine d'années, donc c'est très proche. On a commencé vraiment à être sur Internet dans les années fin des années 90, enfin, c'est quand même, on parle de peu de temps, et très vite d'autres technologies se sont rajoutées à cette révolution qui est Internet, qui a modifié profondément nos modes de communication et nos modes de consommation. Et donc, comme pour la grande distribution et l'hôtellerie classique, eux n'ont pas pu repartir sur une page blanche ou à moins de faire comme le MOB ou le Mama Shelter, de recommencer quelque chose complètement à zéro.
Voilà, et ensuite bénéficier de plus grands groupes. Et
alors, ceux qui étaient déjà établis, ceux qui sont déjà établis et qui ont des grosses infrastructures, quand vous prenez le groupe Accor, là, ils ont cédé beaucoup de leurs murs, mais ils avaient d'énormes infrastructures. C'est un peu comme dans la grande distribution, quand il faut se mettre sur le net. Eh ben, on a du mal à s'y mettre parce que ça veut dire si on se met sur le net, qu'est-ce qu'on fait de nos gros malls, de nos gros centres commerciaux, de nos gros hypermarchés, comment on les fait vivre? On risque de baisser le trafic à cet endroit-là. Donc, on met en danger son business model qui existe depuis l'après-guerre, par exemple. Donc, ça met beaucoup de temps, en fait, à s'enclencher. Il y a la peur, il y a le manque de compréhension, il y a l'âge aussi et de ne pas avoir grandi avec ces techniques, de ne pas les comprendre, de ne pas se les accaparer, tout ça. Et nous, bah, avec Mi Hotel, on n'avait rien à perdre, on avait notre vision. Et là, au contraire, on a pu aller à fond dans ces nouveaux modes techniques, technologiques, et à la fois
Oui, vous n'aviez qu'à apporter une nouvelle vision, finalement. Pas en changer une, mais en apporter une.
Notre vision, on a pu la réaliser à travers ça, sans contrainte d'infrastructure, puisque nous n'en avions pas. Et que nous avions bien compris qu'on commençait tout petit avec... On commençait petit avec peu d'investissement, mais bon, l'investissement quand même. Il a fallu quand même acheter ses suites à un moment donné avec Stéphanie et ensuite créer une société qui allait les exploiter. On en a acheté quelques-unes et après, il a fallu trouver des investisseurs, mais il a fallu bien faire la preuve du modèle. Donc voilà, on a commencé sur une page blanche. Voilà.
Et c'est au final un beau parcours puisque jusqu'à maintenant, la page blanche s'est bien remplie.
la page blanche s'est bien remplie et on croise les doigts, on met des petites bougies dans nos maisons et on est assez confiante parce qu'on sait qu'on a confiante. En tout cas, on a un modèle qui permet peu de contacts et qui est sécurisé. On fait un ménage à la vapeur depuis très longtemps qui évite les bactéries courantes d'ailleurs et même, on espère, même celles du Covid. On va utiliser des produits pour désinfecter et puis bah, les gens ont peu de contact en fait avec personne. Donc c'est
vous
c'est
êtes déjà adapté une... finalement à repartir dans cette activité puisque vous avez proposé déjà une vision qui permet de ne pas être vraiment proche avec une certaine proximité entre les personnes, des endroits éloignés, sans contact avec les partenaires extérieurs. Donc finalement, c'est un concept qui va marcher.
Absolument. Voilà, on pense que nous, on est assez optimistes par rapport à ça. Notre agilité, notre fonctionnement, on peut prendre la main sur le téléphone à distance pour devenir, pour être nos reservation managers. Elles prennent la main du téléphone à distance avec notre outil, notre application interne dont je parlais tout à l'heure. Elles prennent la main, elles mettent en route le répondeur pour la nuit avec les codes d'urgence. Elles se passent le téléphone sans avoir à physiquement faire d'échange. Elles peuvent répondre aux clients sans être physiquement sur place. Elles ont un outil parfait, complet de tout ce qui se passe dans chaque suite, où tout est localisé dans chaque suite. Elles peuvent répondre à distance à toute question. Voilà, il y a très peu de temps où on a besoin d'envoyer quelqu'un sur place. Alors, la femme de chambre, elle sera toujours sur place. Comme dit mon associé, on n'a pas inventé le drone qui fait le ménage aujourd'hui. Donc, nos femmes de chambre, elles seront sur place, mais elles sont équipées. Charlotte, masque, gants, blouse, masque lavable.
Oui, donc vous garantissez une certaine qualité aussi de service à ce niveau-là, la sécurité et surtout le sanitaire qui est vraiment garanti.
Voilà, et on va livrer des repas avec nos partenaires. On est en train de mettre en place, comme je vous l'ai dit en début d'émission. Donc on
avec
va mettre
Food Traboul.
Voilà, avec Traboul, avec on va mettre en place dans toutes nos suites un système de livraison sécurisé et de très haut niveau. On va faire du slow food, du middle food et du high range food, de la gastronomie. Voilà, on va faire de la bistronomie, de la gastronomie en livrant tout en livrant les repas. Voilà.
Tout plein de nouvelles inspirations alors à venir. Parfait.
Voilà. On ne lâche rien, comme on dit sur les réseaux sociaux. On ne lâche rien.
C'est ça, on reste dans la place. Finalement, j'aimerais savoir, par rapport à toutes ces belles choses que vous avez pu dire, et puis c'est ma question un peu signature sur ce podcast, quelle est votre vision de l'hospitality ? Quel est le sens que vous donnez à ce mot dans vos actions de tous les jours, et puis surtout au sein de Mi Hotel ? Qu'est-ce que cela représente pour vous, l'hospitality ?
Je pense que le beau revient toujours, hein, c'est-à-dire faire des belles choses pour partager avec les gens. Donc le partage des belles choses et puis le respect de la personne qui va passer un moment chez soi, chez nous, donc, et qui va se retrouver un peu chez lui. Ça, c'est vraiment je pense que c'est vraiment la valeur profonde. Et tout ça dans le chic, vraiment l'hospitalité à la française, l'accueil à la française, partout où on ira, on essaiera de garder ça. Tout en, évidemment en background, en ayant une technologie qui nous permet d'assurer un service impeccable. Mais c'est vrai que ce qu'on met en avant aujourd'hui, c'est le chic à la française, un lieu unique et qui parle à chacun trouve sa suite dans la collection de suites pour y passer un moment de bonheur, même s'il travaille. Voilà.
Un moment très personnalisable finalement.
Voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important l'accueil personnalisé, en tout cas se sentir un peu unique chez soi, pas dans quelque chose d'impersonnel, quelque chose de beau. Vraiment, ce partage du beau me semble être une valeur indispensable aujourd'hui dans le chic et le beau.
Tout à fait. Merci pour ces belles paroles, en tout cas. Je voudrais vous remercier pour ce temps que vous avez pris pour nous partager toutes ces belles idées et surtout ce beau concept qui existe donc aujourd'hui depuis 2013 sur Lyon. Et j'espère bientôt sur d'autres villes aussi.
J'espère.
Je n'en doute pas.
Et ben moi, je voulais vous remercier, Mathilde.
Un grand, grand merci pour être parvenue jusqu'ici. Si c'est le cas, c'est qu'à mon avis, l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant quelques étoiles sur iTunes. C'est une mini contribution gratuite de votre part qui permet grand développement au podcast. N'hésitez pas non plus à en parler massivement autour de vous. Pour vous tenir au courant de toute mon actualité, abonnez-vous sur Instagram @esprithospitality. À très bientôt !